gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Eh bien, on va continuer nos enseignements comme on fait tous les jeudis matins, parce qu'on regarde au travers de la parole de Dieu et pour voir qu'est-ce que Dieu a à dire à propos de la guérison. Amen. Et ce qu'on veut vraiment arriver, c'est établir la volonté de Dieu sur la terre, comme la parole de Dieu le dit quand Jésus a montré à ses disciples comment ils devaient prier. Il dit « Priez pour que son règne vienne, que sa volonté s'établisse sur la terre comme au ciel. » Et Jésus nous a démontré la volonté de son Père tout le temps qu'il était sur la terre. Amen. Et même lorsqu'il est mort à la croix, parce qu'il a tout accompli, puis lui-même a dit avant de mourir à la croix, non pas ma volonté, mais ta volonté, Père. Et pourquoi il est mort à la croix? Mais c'est parce qu'il nous avait dans sa tête. Amen. C'est parce qu'il savait qu'il prendrait notre place. Amen. Qu'il descendra aux enfers, qu'il payerait le prix des péchés de l'humanité au complet pour tous ceux qui oseraient croire à son plan du salut. Amen. Et comment il faisait la volonté de son Père. Alors, on regarde depuis, quand même, on est rendu à la 15e semaine et c'est la 14e raison qu'on va regarder aujourd'hui qui nous démontre que c'est la volonté de Dieu qu'on marche en santé sur la terre et puis qu'on n'ait pas peur de s'approcher de Dieu pour recevoir la guérison. Amen. On sait très bien que on ne dénie pas puis on ne dénigrera jamais non plus l'œuvre de tous les médecins puis les sur la terre. Amen. Parce que même il y en a plusieurs de nous qui seraient peut-être pas là aujourd'hui si les médecins n'avaient pas été là. Au contraire, on aime les habiletés que Dieu a mis dans des hommes et des femmes qui font des recherches et qui travaillent à ramener les gens dans un état. Si ça marche pas, il y a un copain bout, si on le sait. Si ça fonctionne pas, ils vont donner des traitements forts, si on le sait. Des fois, ça a des répercussions, mais il y a une chose, ils travaillent dans le but de voir les gens guéris, de ramener les gens dans un état de santé. Amen. Alors, merci Seigneur que on a les médecins. Mais nous autres, on a le médecin des médecins. Amen. Alors, on peut vraiment aller à Dieu. Et puis, parce que c'est lui qui nous donne l'intelligence, c'est lui qui nous donne la sagesse. Amen. Et puis, on va à Dieu pour savoir qu'est-ce qu'il a à dire dans sa parole. Amen. La semaine passée, on a vu que ce qui motivait Jésus à amener la guérison dans les gens, c'était la compassion. Amen. On a vu comment Jésus arrivait devant les foules. Il était ému de compassion. Puis en demeurant un petit peu dans cette même veine, aujourd'hui, on va regarder qu'une des raisons qu'on peut voir dans la parole de Dieu, que c'est impossible que Dieu nous voudrait malade et puis toutes ces choses-là, mais au contraire, qu'il nous veut guérir, c'est à cause que Dieu, le Père, c'est notre Père. Amen. C'est notre Père. Alors, on va établir une fondation, puis on va regarder comment les hommes et les femmes de Dieu qui ont écrit la parole de Dieu veulent qu'on regarde le caractère de Dieu, puis qui il est. Alors, on va aller voir David, qu'est-ce qu'il disait dans le psaume 103. Dans le psaume 103, on sait très bien que c'est toute une louange que David, quand il loue l'Éternel, on sait très bien que David a écrit beaucoup de psaumes et que c'était un louangeur, un homme après le cœur de Dieu. Et on sait très bien que le verset 1, 2, 3, comment il loue l'Éternel, puis il dit « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. » Et puis là, il explique les bienfaits. Il dit, c'est lui qui pardonne les iniquités. C'est lui qui guérit toute maladie. C'est lui qui nous délivre notre vie de la fosse, qui nous couronne de bonté, de miséricorde, qui nous rassasie de bien dans notre vieillesse, qui nous fait rajeunir comme l'aigle. Et quand on va au verset 13, il continue de louer Dieu et il dit, comme un père a compassion de ses enfants, L'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Alors, il compare tout de suite l'Éternel à un père qui a compassion. Pas n'importe quel père, mais même un père qui a compassion de ses enfants. Ben, il dit, l'Éternel a compassion aussi de ceux qui le craignent. Alors, vraiment, David nous montre le caractère de Dieu. Comme je disais la semaine passée, on a vu comment Jésus était toujours ému de compassion. Puis lui-même, Jésus dit, ce que je fais, c'est le Père en moi qui fait les choses. Amen. Alors, c'était la compassion qui le motivait. Lorsqu'on regarde à David, David tout de suite compare Dieu à un Père qui est rempli de compassion pour ses enfants. Alors, on voit le caractère de Dieu. C'est un Dieu d'amour, un Dieu de compassion. Maintenant, on va aller voir l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il disait. On va aller à Éphésiens 3, puis je vais lire le verset 14. Et l'apôtre Paul, on sait qu'il a écrit la parole de Dieu, inspirée de Dieu. Amen. Tous les hommes dans la Bible qui ont écrit la parole de Dieu ont tous été inspirés par le Saint-Esprit. Mais dans le verset 14, il dit, l'apôtre Paul dit, « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. » Vraiment, je veux qu'on comprenne une chose, c'est que Dieu il a un esprit de famille. Amen. Et puis Dieu veut être un père, puis on va voir dans les Écritures. Puis l'apôtre Paul, il dit, quand je regarde à toutes les choses, il dit, je fléchis le genou devant Dieu le Père. Amen. Devant le Père de qui toute famille tire son nom dans les cieux et sur la terre. Amen. Ça veut dire que notre nom, on le tire tout de Dieu. Dieu, c'est le créateur de l'univers. Amen. Et puis, c'est lui qui a créé l'homme et la femme. Alors, on tire tout notre nom, mais il dit vraiment, il le nomme Dieu le Père. Amen. Puis, il dit toute famille. Alors, vraiment, Dieu, il y a vraiment un esprit de famille. On va continuer dans Romains 8. Romains 8, et puis je vais lire le verset 15. Et nous, on tire notre nom, mais c'est ce que l'Esprit de Dieu travaille. Il travaille à nous emmener dans la famille de Dieu. Je vais prendre les Écritures, puis on va placer ça comme il faut. Amen. Ça dit au verset 15, « Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude ou un esprit d'esclavage. » Des fois, les gens, ils pensent que parce qu'on sert le Seigneur puis parce qu'on aime les choses de Dieu, on est rendu brainwashé puis on est rendu quasiment des esclaves, des pions qui se promènent. Moi, vous dire quelque chose, c'est pas un esprit comme ça qu'on a reçu. Mais ce qu'on a reçu, on va le voir ici. Il dit, « Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Vraiment, le Saint-Esprit, on l'appelle aussi un esprit d'adoption. Ça veut dire qu'il nous amène dans la famille de Dieu. L'apôtre Paul, il dit « Je fléchis les genoux devant Dieu le Père, de qui toute famille tire son nom ». On tire notre nom. Comment qu'il y en a de gens qu'on a déjà vus des fois dans des films ou entendu des histoires qui se sont aperçus un jour qui appartenaient à une famille très noble. Ils le savaient pas avant, mais ils appartenaient à une famille très noble. Nous autres aussi, on tire notre nom de Dieu. Mais quel Dieu? C'est Dieu le Père qui a un esprit de famille. Puis il dit que son Saint-Esprit, l'Esprit Saint, il dit, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais il dit, vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Autrement dit, Dieu, on sait très bien que Dieu dans les cieux, la parole de Dieu nous dit qu'il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils Jésus pour nous sauver. Amen. Alors, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils. Puis Jésus, après avoir tout accompli, dit, je vais monter au ciel, je vais prier le Père pour qu'il vous envoie un autre comme moi, le Saint-Esprit. C'est la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Alors aujourd'hui, le Saint-Esprit est avec nous, c'est lui qui vit en nous. Alors, vraiment, Dieu, qui est Dieu le Père, puis est Dieu de tout le Père, de toutes les familles, le Saint-Esprit, quand il est arrivé sur la terre, il veut faire une chose. Il veut nous emmener dans la famille de Dieu. Amen. Alors, il travaille, c'est un esprit d'adoption. Il dit, venez-vous-en, le Père, il veut vous adopter. Amen. Il veut nous emmener dans la famille. Et vraiment, Dieu a pris... Il a pris lui-même. On sait très bien que Jésus, c'est Dieu avec nous. Le Saint-Esprit, c'est encore Dieu avec nous. Il a pris ce qu'il y avait de plus précieux, son Saint-Esprit, pour l'envoyer avec nous. Pourquoi Dieu le Père? Il a envoyé son Fils Jésus et il a envoyé son Saint-Esprit. C'est parce qu'il veut qu'on se sente chez nous, chez eux. Amen. Il veut vraiment qu'on se sente chez nous. Il a dit, toi, le Saint-Esprit, tu me connais, tu vas aller les chercher, puis je vais les adopter. C'est un esprit d'adoption par lequel, lorsqu'on est convaincu par le Saint-Esprit que Dieu est bon, que Dieu existe, que Dieu nous aime, on le veut dans notre vie. C'est un esprit d'adoption qui amène, puis là, on peut dire, sais-tu quoi? Dieu, c'est mon Père. C'est notre Père. Amen. C'est un esprit d'adoption. Je peux crier « Abba, Père », autrement dit. Et le verset suivant, ça dit « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. » Amen. Si tu es un enfant de Dieu, tu es un enfant de quelqu'un, d'un Père, et Dieu, c'est Dieu le Père. Amen. Alors, je veux établir ça comme il faut, comme fondation, pour qu'on comprenne quelque chose ce matin concernant la guérison. On va aller à 2 Corinthiens 6, et je vais lire le verset 17 et 18. La parole de Dieu dit, ici c'est encore l'apôtre Paul qui parle, puis il dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux, il parlait des gens qui sont perdus. Amen. Sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur ou ce qui n'est pas bon. Amen. Et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Alors vraiment, c'est quelque chose que Dieu veut. Il dit, sortez de la pression, l'oppression, tout ce qui est méchant, tout ce que les gens sont conduits puis n'ont aucune espérance. Sortez du milieu d'eux, puis venez à moi, puis je vais vous dire ce qui va arriver. Je serai pour vous un père, puis vous autres, vous serez des fils et des filles pour moi. Ça veut dire que quand on vient à Dieu, puis l'Esprit Saint nous convainc dans notre cœur, et lui, il a un esprit d'adoption. Viens dans la famille. Viens-t'en dans la famille. Dieu veut qu'on se sente chez nous. Puis ce que Dieu veut, c'est qu'il dit, je veux devenir pour vous un père et que vous autres, vous deveniez mes enfants, mes fils et mes filles. Alors, David, il nous montre le caractère de Dieu, que c'est un Dieu de compassion, comme un père a compassion de ses enfants. Puis l'apôtre Paul nous démontre, lui, comment Dieu, c'est un père, puis il veut ça, et puis il nous veut. Amen. Il veut être un père, puis il nous veut en plus. S'il ne nous voudrait pas, il n'aurait pas envoyé l'Esprit Saint qui nous convainc, puis qui nous amène à être adoptés, puis qui nous emmène dans sa famille. Mais la preuve que Dieu nous veut, c'est que premièrement, il nous a envoyé le Sauveur, Jésus. Puis après ça, il nous envoie le Saint-Esprit, puis il dit, maintenant, le chemin est tout fait. Vous étiez perdus, Jésus est venu pour que vous ayez la vie, vous avez tout le chemin, je veux être un père, je veux que vous soyez des fils et des filles, je vais envoyer mon Saint-Esprit, il va vous convaincre, puis il va faire que vous allez être adoptés dans la famille de Dieu. Amen. À un moment donné, ça vient facile à comprendre. Amen. Maintenant, on va aller, parce que je veux m'enligner vers la guérison. Alors, ça veut dire que Dieu, c'est un père et de compassion, parce qu'on a vu son caractère. C'est un père de compassion. On va aller à Matthieu 7. Matthieu 7. Et je vais commencer à lire au verset 7. Ça dit, « Demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. » Frappez et l'on vous ouvrira. Des fois, les gens vont dire, comment ça fait qu'on n'a pas su ça avant? Bien, c'est parce que peut-être qu'on avait arrêté de chercher. Parce que la Bible a dit que si tu cherches, tu vas trouver. Mais le principal, c'est que tu aies trouvé à un moment donné. Amen. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Là, maintenant, il explique quelque chose. Puis c'est Jésus lui-même. Il dit, lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Tu sais, moi, mes enfants, quand ils voulaient avoir une toast, j'allais pas dehors chercher des roches, mettre ça sur la table. Il disait, t'es assez intelligent pour ça. Ou s'il demande du poisson, lui donnera-t-il un serpent? Ça, j'aurais eu de la misère à aller chercher ça, par exemple. Il dit, si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux ne vous donnera-t-il pas des bonnes choses à ceux qui les demandent, qui les lui demandent? Amen. Alors vraiment ici, là, tantôt on a vu David qui parle comment que Dieu, c'est un Dieu de compassion, exactement comme un père aurait compassion, Dieu y a compassion. L'apôtre Paul dans les Écritures nous démontre comment Dieu a voulu qu'on soit adopté dans sa famille, qu'on devienne ses enfants, puis lui soit un bon père. Et maintenant, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui donne un exemple. Il dit, cherchez, vous allez trouver. Le monde qui cherche, trouve. Amen. Il dit, demandez, vous allez recevoir. Amen. Puis il dit, vraiment, pensez-y. Il veut qu'il s'arrête à penser à l'exemple d'un père terrestre. Il dit, vous autres même comme père, si vos enfants vous demandent du pain, allez-vous lui donner des roches? Si vous demandez du poisson, allez-vous lui donner un serpent? Bien, il dit, combien plus? Votre Père qui est dans les cieux vous donnera-t-il pas ce que vous demandez? Amen. Alors là, maintenant, tantôt on a vu que le caractère de Dieu, c'est compassion. Dieu, c'est notre Père. Il est un Père de compassion, mais en plus, il est encore 100 fois mieux qu'un Père terrestre. Il dit, si méchant comme vous l'êtes, vous savez faire ça. En voulant dire « Hello, combien plus votre Père dans les cieux vous donnera-t-il pas ce que vous avez besoin quand vous le lui demandez? » Amen. Vraiment, le monde, des fois, il voit des bons pères terrestres et puis il pense que toutes les qualités qu'il a sortent de lui-même. Mais vraiment, on est juste des exemples de notre Père céleste. Amen. Et si un père n'a pas été un bon père, ben il est loin d'être un exemple de notre Père céleste, point à la ligne. Amen. Lui, il parle ici, il donne l'exemple, il dit, méchant comme vous l'êtes, en voulant dire, vous êtes loin d'être parfait. C'est ça que ça veut dire, comparé à Dieu. Puis si vous savez donner des bonnes choses, vous autres qui êtes si imparfaits, puis que vous avez des failles ici et là, combien plus Dieu vous donnera-t-il pas ce que vous demandez? Qu'est-ce que ça a à voir avec la guérison? Mais je peux vous dire une chose. Si méchant comme on l'est, comme la parole de Dieu le dit, combien de parents, quand vous voyez vos enfants malades, vous avez pensé ou vous avez peut-être même dit, j'aimerais bien mieux que ça soit moi qui sois malade que mes enfants. Amen. Ça, là, je vais vous dire une chose, ça ne sort pas de notre tête. Combien de fois on a voulu prendre, moi je me souviens même quand ma soeur Françoise décédée, ma mère a dit, elle dit, pas de danger que ça arrêtait moi à la place. Amen. Comment on voudrait pas que nos enfants, on aimerait mieux que ça soit nous autres qui soient malades, on aimerait mieux que ça soit nous autres. Eh bien je peux vous dire une chose, nous autres on n'a pas le pouvoir de prendre leur place. Mais il y a une chose, par exemple, Dieu le Père avait le pouvoir de prendre notre place. Lui, il l'a fait. L'idée, il l'a eue bien avant que nous autres, on l'ait. C'est pour ça qu'il regardait le monde sur la terre qui allait à dépérir dans le péché, dans la maladie, dans l'infirmité et toutes ces choses-là. Et c'est pour ça que Dieu lui a dit, il faut absolument que quelqu'un prenne leur place. Supportent, qu'est-ce qu'ils supportent, comme ça, ils n'auront pas besoin de le supporter. Alors, ce qui est arrivé, c'est que notre Seigneur Jésus-Christ est venu, et puis il a démontré la volonté de son Père, puis il a guéri tout le monde. Mais quand il est mort à la croix, la parole de Dieu nous dit qu'il a souffert les meurtrissures duquel nous avons été guéris. Pour le comprendre, je vais le dire comme ceci. Mon mari a été 20 ans dans l'armée, et puis une fois, il est allé en exercice, je pense que ça a duré 10 jours ou 2 semaines, je ne me souviens plus. En tout cas, il était dans le bois en hiver, et puis c'était l'hiver, je pense qu'il a fait le plus froid des 25, des 30 en bas de zéro. Et puis, fallait qu'il montait le tente sur la neige, puis là, prenait de la neige, puis faisait, en tout cas, le vrai exercice des petits cow-boys dans le bois, hein? Et puis, alors, il faisait fondre l'eau, puis là, il se couchait, puis il fallait qu'il mette tout le linge dans le sac à couchage pour le garder chaud. S'il avait enlevé le botte qui était comme ça, bien, quand il les remettait le lendemain, les orteils, il fallait que ça en aille comme ça parce que la botte avait gelé de même. Puis à 2 heures de la nuit, l'alarme sonnait, puis là, il pouvait aller camper 40 pieds plus loin, comme s'il arrêtait dans la vraie guerre. Puis là, pour finir le plat, après qu'ils ont fini une semaine de travail dur comme ça, c'était le temps de la grippe porcine. Fait qu'ils ont voulu faire un test sur nos militaires. Puis ils ont injecté la piqûre de la grippe porcine pour voir comment ils seraient immunisés après, quand la grippe viendrait. Alors, il était malade au coton. Mais il était immunisé, puis après ça, il disait, parce que cette grippe-là devait venir, puis en fin de compte, elle n'est pas vraiment venue. Mais il était immunisé contre cette maladie-là. C'est comme s'il injectait une partie de la maladie et le corps le combattait pour, après ça, être immunisé. Moi, je peux vous dire une chose. C'est comme ça que je l'ai compris un peu, parce que moi, des fois, il faut que ça fasse du sens. Notre Seigneur Jésus-Christ, il a reçu les piqûres de cancer, de sida, de toutes les maladies possibles lorsqu'il est mort à la croix puis il a souffert pour nous. Il nous a immunisés parce qu'il a pris notre place. Hein. Vous savez, Jésus a pris notre place à la croix. Ça serait trop long de tout expliquer ça ce matin, mais il a souffert ce qu'on devrait souffrir par nos péchés. Il est descendu aux enfers, il a payé le prix. Mais quand il était à la croix, puis il souffrait toutes les maladies qui nous amènent la guérison, c'est comme s'il recevait toute la maladie pour nous immuniser, nous. Il faut le savoir. Ce que tu sais pas, la parole de Dieu dit, mon peuple périt parce qu'ils ne le savent pas, parce qu'ils manquent de connaissances. Amen. Pourquoi on enseigne comme ça? C'est parce qu'on veut que le monde le sache. Quand on était jeune, on était privé de lire la Bible. Puis pourtant, la parole de Dieu dit qu'on devrait avoir nos yeux dans la Bible continuellement. Il disait que ça prenait un cours classique, mais on va vous dire quelque chose, j'étais même pas dans le commercial école. Tu sais, il y avait général, commercial, puis tout ça. Hey, moi, là, j'étais le dernier en bas. Puis c'est drôle, j'ai pas de misère à lire la Bible du tout. Anyway, alors notre Seigneur Jésus-Christ a souffert pour nous. Parce que c'est Dieu le Père qui voulait prendre notre place. Il ne voulait plus que l'humanité continue de souffrir comme elle souffrait. Alors lui a pris notre place. Si nous autres méchants comme on l'est, on est capable de penser qu'on pourrait prendre la place, on aimerait prendre la place de nos enfants. Ça vient de lui parce que lui a pensé avant nous et il l'a fait. Alors vraiment, c'est un bon Père rempli de compassion. Puis il dit dans le naturel, si vous autres, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père dans les cieux ne vous donnera-t-il pas tout ce dont vous avez besoin? Et il l'a fait. Il l'a fait. Il nous a donné notre Seigneur Jésus-Christ, puis notre Seigneur Jésus-Christ, il le savait qu'il accomplirait tout, ce qui nous amènerait à la prospérité, à la guérison, à la paix, à tout ce qu'on avait besoin. Tout ce qu'on avait besoin. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur. S'il y a des gens qui n'ont pas eu un bon modèle de père, puis qui ne veulent même pas se souvenir des bouts de leur père terrestre, j'ai une petite nouvelle pour vous. On va aller à Psaume 27. Psaume 27. Et je vais lire le verset 10. Ici, le psalmiste, il dit, « Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. » Dans d'autres traductions, ça veut dire « même si ton père et ta mère n'étaient pas les parents qu'ils devraient être, Dieu le Père, lui, il va t'apprendre puis il va t'amener à la famille que lui a. » Amen. C'est ça que ça veut dire. Si ton père et ta mère t'abandonnent, crains pas, parce qu'il y a un autre Père qui existe, c'est le Père éternel. Amen. Puis lui, il va te recueillir. Lui, il va te prendre. Amen. Oh, gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. On va aller à 1 Timothée 5. L'apôtre Paul dit ceci. Je vais lire... Ça dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. L'apôtre Paul dit, moi, je peux vous dire juste une chose. Si un père de famille n'a pas soin des siens, puis il n'est pas capable d'avoir soin de ceux de sa famille, bien vraiment, il a renié ce qui est la foi. Puis il dit, il est pire qu'un infidèle. Alors, il nous démontre vraiment, on a lu tantôt l'apôtre Paul, comment il voulait qu'on regarde à Dieu comme Père. Puis comment il nous démontre que quelqu'un qui ne serait pas capable de prendre soin des siens, il est pire qu'un infidèle. Ça veut dire que l'apôtre Paul avait une bonne aperçu de qu'est-ce que ça devrait être un Père. Il dit, un Père, c'est quelqu'un qui prend soin des siens, puis il prend soin de ceux de sa famille. Mais il dit, un père terrestre qui prendrait pas soin, bien, il est pire qu'un infidèle, puis il a renié tout ce qui concerne la foi. Amen. Alors, vraiment, c'est pas le cas avec notre Père éternel. Il prend soin des siens, puis il prend soin de ceux de sa famille. Il est la foi, puis il n'est pas un infidèle. Alors, la meilleure chose qu'une personne peut faire dans la vie, c'est suivre le Père éternel. Ça, c'est la meilleure chose. Amen. On ne sera jamais parfait, mais Dieu le Père l'est parfait. Amen. Il ne nous abandonnera jamais, il ne nous délaissera jamais. La meilleure chose qu'une personne peut faire, c'est embarquer dans la famille de Dieu. Puis c'est vraiment embarquer, de comprendre que Dieu, c'est un bon Père, puis il veut le meilleur pour nous. Amen. Ça, c'est la meilleure chose qu'une personne peut faire. Pourquoi? Parce qu'en embarquant dans la famille de Dieu, elle vient de protéger elle, sa famille, puis ses enfants. Parce que si elle est embarquée, le reste va embarquer aussi. Amen. C'est la meilleure chose qu'une personne peut faire. Aller se placer sous un Dieu de compassion, un Père qui prend soin de ses enfants. Dieu s'attend que si on est malade, si on a des besoins dans notre vie, bien, on va penser comme l'enfant prodigue. Puis c'est avec cette écriture-là que je voudrais terminer dans Luc 15. Vous savez, notre Seigneur Jésus-Christ démontre ici vraiment l'image de Dieu. Lorsqu'il parle de cette histoire dans la parole de Dieu, il démontre vraiment qui est Dieu, comment Dieu agit, quelle sorte de Père il est. Puis qu'est-ce qui s'attend qu'on va penser de lui? Voyez-vous, je vais commencer à lire au verset 11. Ça dit, il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune, il a dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea ses biens, son bien. Ça veut dire qu'il y en a un qui l'a demandé, puis quand Dieu donne à tous. Amen. Fait qu'il dit, toi, tu l'as demandé, mais je vais te le donner, mais je vais partager en même temps pour ton autre frère. Alors, ils ont toutes les deux reçu leur part d'héritage. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays lointain où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier de carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Et c'est ici, là, le verset 17, c'est comme ça que Dieu veut qu'on pense. Dieu, qui est un Père, il s'attend que nous, on va réfléchir comme ça quand on pense à lui. Étant rentré en lui-même, il dit, « Combien d'ouvriers chez mon Père ont du pain en abondance? » Autrement dit, il est rentré en lui-même, puis il a commencé à penser à la générosité de son Père, à la bonté de son Père, parce que les ouvriers ne sont pas obligés d'avoir ça en abondance. Mais là, il est en train de penser même aux ouvriers qui travaillent chez son Père. Comment son Père est généreux, puis même les ouvriers, ils ont ça en abondance. C'est exactement comme ça que Dieu s'attend que nous, les enfants, quand on est dans le besoin, quand on a besoin de quelque chose, si t'es malade, tu as besoin d'être guéri. Si tu es pauvre, tu as besoin d'être pris soin, d'avoir la provision. Si tu es perdu, puis tu es dans le péché par-dessus la tête, puis tu t'en vas en enfer, tu as besoin d'être sauvé. Mais Dieu, c'est comme ça. Quand Jésus donnait cet exemple-là, il dit, étant rentré en lui-même, il dit, voyez-vous, Dieu s'attend que nous, quand on rentre en nous-mêmes, quand on se met à réfléchir, à penser, on va penser comment Dieu est grand, comment Dieu est bon, comment Dieu a en provision, de la provision en abondance, comment Dieu veut le meilleur. Puis même ce petit gars-là, il pensait même pas encore assez grand. Regardez, étant entré en lui-même, il dit, « Combien d'ouvriers chez mon Père ont du pain en abondance? Et moi ici, je meurs de faim. » Il n'y a pas à dire. Il a tout été dépensé l'héritage de son père en faisant des folies, en faisant de la débauche, tout dépensé. Son père l'a ramassé, cet argent-là. Son père l'avait préparé pour eux, pour quelque chose de bien. Tout ce qu'il a fait, il a fait des folies avec ça. Mais là, il est rentré en lui-même et il dit, écoute bien, je ne suis peut-être pas digne d'être appelé un fils, mais les ouvriers chez mon père... Quand il pense à son Père, il pense à un bon Père, un Dieu d'abondance. Et voici moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon Père, puis je lui dirai, « Mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Son Père pourrait dire, le gars, il pourrait penser, hey, jamais de la vie, mon père va vouloir faire ça. Après tout ce que j'ai fait, comment j'ai dépensé, comment j'ai traité du revers de la main, comment lui avait peiné de peine et de misère pour me donner un héritage, comment lui est fin et généreux, puis moi qui est allé dépenser ça, puis là, je lui demande d'être traité comme un de ses ouvriers. Mais il n'a pas peur de lui demander au moins ça. Mais combien de vous savez qu'on va à Dieu et on demande un petit peu. Combien de vous se culpabilisent pas jamais du tout? Levez la main, on va prier pour vous. Bon, voyez-vous, on est tous pareils. Oh, ouais, mais regarde, je n'ai pas prié gros cette semaine. Oh, ouais, mais je ne suis pas toujours fine, tu sais. On dirait qu'on a peur d'aller. C'est correct qu'on se culpabilise. C'est mieux que d'avoir une tête enflée et penser qu'on est parfait, parce qu'on ne l'est pas personne. Mais dans un autre sens, on ne doit pas non plus se culpabiliser continuellement comme ça. Parce que dans le fond, on est des enfants de Dieu, puis Dieu nous aime. Mais voyez-vous, il dit, je me lèverai, j'irai vers mon père, puis je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Au moins, il reconnaissait son erreur. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vut et fut ému de compassion. Pensez-vous que Dieu l'attend, que son père l'attendait avec une brique pain fanal pendant qu'il revient à la maison, tu vois, qu'il va en manger des croûtes? Moi, le père, moi, le fait passer en dessous de la table. Moi, il passe à whip. En tout cas. Non. Il l'a vu de loin. Un gars qui est parti loadé, il avait de l'argent, bien habillé, il part, lui, là, voir les femmes. Mais là, ça fait des mois qu'il ne mange pas, à sa faim. Et sûrement qu'il ne s'est pas acheté de lame de rasoir pour se faire la barbe. Il aimait mieux manger avant ça. Il a l'air d'un pouilleux. Il a travaillé avec les cochons. Il sent même plus bon avec les pourceaux. Il aurait voulu se nourrir. Fait combien de temps qu'il ne s'est pas brossé les dents? Non, mais tu sais, je veux dire, c'est quelqu'un de magané là, qui s'en vient. C'est quelqu'un de défait. C'est quelqu'un qui ne se ressemble plus comme il était avant. Mais c'est drôle que son père l'a reconnu de loin. Pourquoi? Parce qu'il s'attendait qu'il reviendrait à lui. Quand tu es un bon père, tu t'attends toujours que tes enfants vont revenir. Quand tu es un bon père, nous autres, des fois, on faisait des affaires pas correctes, mais on va aller voir père. Parce qu'on savait qu'on avait un bon père. Quand tu es un bon père, tu t'attends que tes bontés vont travailler dans la tête de ton petit gars ou ta petite fille, puis vont finalement se réveiller un jour. Amen. Fait que son père, il s'attend toujours. Puis il sait qu'il n'a pas pris la bonne direction. Puis il sait qu'il a parti à vitesse qu'il a parti. Ça part vite tout aussi. Fait qu'il sait à quoi s'attendre. Quand il voit quelqu'un de magané en venir, il dit, lève-la. Mais il était ému de compassion. Puis la parole de Dieu nous dit qu'il a couru. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou puis l'embrasser. Il n'a pas dit, OK, on va prendre une bonne douche, là. Va te laver, change-toi, là. Non. Il l'a embrassé. Savez-vous qu'il est temps que l'Église aussi, nous autres aussi, on se réveille? Il y a une Église aux États-Unis que j'ai déjà entendu un des prêcheurs nous enseigner quand on était à l'école biblique, puis il parlait d'un monsieur qui était, on appelle ça nous en québécois, un robineux, mais qui était dans la rue. Et puis c'était un ivrogne, il était souvent malade, ne se changeait pas. Puis il rentrait dans l'église quand il venait à bout le dimanche matin de rentrer dans l'église, s'assire. Quand il venait s'assire, le monde se tassait. Mais le pasteur, lui, il est parti dans l'arrière, puis il est allé le voir, puis il l'a serré, puis il l'a embrassé. Amen. Et puis cet homme-là est devenu un homme d'affaires, un businessman. Tout ce qu'il avait besoin, c'est de savoir qu'il y avait quelqu'un quelque part qui l'aimait. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur quand c'est la compassion qui nous motive. Parce que c'est là que le changement arrive. Mais ça, c'est le Dieu qu'on sert, un Dieu de compassion. Fait qu'il est parti en courant, puis il est allé se jeter à son cou, puis l'embrasser. Il s'en foutu, lui, qui sente quelque chose, qui sente plus bon, que ça fait longtemps qu'il ne s'est pas lavé. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. » Le père n'a même pas écouté rien de ce qu'il disait. Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe, revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt. » C'est quoi l'anneau? Parce que quand tu faisais partie de la famille, il y avait un anneau spécial que tu portais, qui voulait dire, « Je suis le fils, je fais partie de la famille. » Et il dit, « Mettez-lui la plus belle robe, revêtez-le, mettez-lui un anneau au doigt puis des souliers aux pieds. » Parce que quand tu étais un esclave, un serviteur, tu n'avais pas de souliers. Tu marchais nu pied. Et il dit, « Tu n'es pas un esclave puis tu n'es pas un serviteur. » Des souliers aux pieds. Amenez le veau gras, puis tuez-le. Mangeons, puis réjouissons-nous. Car mon fils, il dit, non, pas mon ouvrier, mon fils. Merci Seigneur. Merci Seigneur qu'on sert un Dieu qui est ému de compassion. Un Père qui nous aime, peu importe. Amen. Mon fils que voici était mort puis est revenu à la vie, était perdu et il a été retrouvé et ils commencèrent à se réjouir. On sait qu'après ça, il y a l'histoire de son frère, mais moi, ce que je voulais qu'on regarde, puis même on pourrait la regarder si on avait le temps, l'histoire de son frère, parce que son frère était jaloux puis chiolait, puis le père a sorti pareil de la maison pour aller vers lui. Ça fait que peu importe ton problème, il va toujours venir. Peu importe ton problème, il va toujours venir. On sert un bon Dieu. Alors, comment Dieu, quand on est malade, il dirait, non, ça, là, tu vas endurer ça, puis si tu peux te souffrir assez. Dieu ne peut pas penser comme ça. Puis nous autres, on ne peut pas penser que Dieu pense ça. Parce que Dieu, c'est un Père, puis c'est un Père ému de compassion, puis c'est un Père qui est mieux qu'un Père terrestre. Si méchant comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, combien plus? Combien plus votre Père qui est dans les cieux ne vous donnera-t-il pas ce dont vous avez besoin? Pourquoi moi je peux savoir aujourd'hui si je suis attaquée par la maladie, que je peux aller à Dieu puis croire que la guérison va venir? Parce que c'est un bon Père. Puis parce qu'il était tellement bon, tellement bon que lui avait la possibilité de prendre ma place, puis il l'a fait en envoyant son fils Jésus qui est mort à la croix, qui a souffert pour moi, pour que je ne souffre plus. 1 Pierre 2:24, la parole de Dieu dit, je vais juste le lire en terminant, on va pouvoir se lever debout aussi. 1 Pierre 2:24, la parole de Dieu dit, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, on puisse vivre comme des justes, et lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Vous savez, toutes les façons qu'on peut voir de la parole de Dieu nous démontrent sans arrêt que qu'on n'a aucune raison de se promener malade. Amen. Mais on a toutes les raisons au monde de croire que la guérison, on y a droit. On va se lever debout. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Si vous voulez, on va prier ensemble. Et si après ça, vous voulez l'imposition des mains ou des prières pour quelqu'un, on va le faire aussi. Amen. Mais si vous voulez, on va prier ensemble ce matin. Je demanderai de répéter après moi. Père éternel, je crois dans mon cœur que tu es un bon Père, que tu as pourvu avec notre Seigneur Jésus. Il a donné sa vie pour que j'aie la vie. Ce matin, je reçois ce que Jésus a fait, ce que tu l'as envoyé de faire. Pour moi, je reçois le salut, je reçois la guérison, je reçois la paix. Seigneur Jésus, tout ce que tu as fait, je le reçois. Amen. Oh, merci Seigneur. Alors, lorsqu'elles vont chanter, si vous avez besoin de prière pour vous, Pasteur Réal et moi, la parole de Dieu dit, vous imposerez les mains et les malades seront guéris. Lorsqu'on impose les mains, on croit qu'il y a un processus qui commence. C'est que le processus de guérison commence dans le corps. Amen. Parce qu'on reçoit ce qui a déjà été fait. On reçoit les bontés puis la compassion de Dieu. Dieu nous veut guérir. Amen. Alléluia. Ou si vous avez besoin de prière pour quelqu'un, on peut le faire. Et si vous allez visiter ces gens-là, on a même des linges sur lesquels on peut prier. Alors, on va louer le Seigneur.